Vous écoutez Radio Libre. Retrouvez tous nos podcasts sur radiolibre.ch.
Bonsoir chers auditeurs, nous sommes le mercredi 8 janvier 2025. Déjà, et oui, nous avons survécu à toutes ces années d'angoisse. Et aujourd'hui, nous sommes enfin réunis à nouveau pour cette nouvelle série de live qu'on a lancée en début d'année, qu'on a commencé l'année passée avec Jean-Dominique Michel. Et là, avec cette formule où on a notre invité public live pendant une heure à peu près. Et après, on a une partie réservée aux donateurs et à ceux qui sont abonnés à l'abonnement de Radio Libre pour parler avec notre invité qui est ce soir. On l'accueille avec un grand plaisir, roulement de tambour, Rémi de Juste Milieu. Bonsoir Rémi.
Bonsoir, bonsoir Radio Libre. Est-ce que tout le monde va bien?
Voilà. Yes, voilà. Vraiment bien. Merci beaucoup d'être là Rémi, trublion de l'info, humoriste, visage de cette chaîne YouTube et du site justemilieu.fr qui traite de l'actualité, la vraie, mais avec toujours un angle humoristique. Et puis Rémi, c'est aussi dorénavant un spectacle d'humour, Zinzin. Ça, on y reviendra tout à l'heure. C'est promis. Pour l'instant, Rémi, nous, on était curieux de savoir, avant ta popularité due à Juste Milieu, qu'est-ce que tu faisais? Quel est ton parcours?
Déjà, très bonne question. Voilà, déjà. Alors, c'était pas gagné. C'était pas gagné parce qu'au départ, j'ai une formation plutôt en commerce. Donc, j'ai fait une école de commerce dans le sud de la France, à Toulouse. Pour ceux qui voient, Toulouse, le cassoulet, Claude Nougaro, le rugby, on adore. Et j'ai choisi cette école parce qu'ils avaient en Master 2, donc c'est la dernière année d'études supérieures sur les masters, une spécialisation en management des activités culturelles et créatives. Au départ, je voulais absolument bosser dans la littérature. Je suis un passionné de bouquins au départ. Et je m'étais dit, bosser en littérature française dans une maison d'édition, en tout cas francophone. De fil en aiguille, j'ai trouvé un stage en Suisse où je suis tombé amoureux du coin. Et pas seulement, j'ai rencontré Madame Milieu ici. Et j'avais créé, alors juste avant ça, je le refais dans l'ordre parce que j'ai pas révisé mes fiches. Pendant cette école de commerce, justement, j'ai créé une première chaîne YouTube qui s'appelait Let It Be à l'époque, où je faisais des chroniques de bouquins, où je parlais de livres, je me faisais plaisir. C'était sur mon temps libre. Et petit à petit, j'ai commencé à parler d'actualité. Et c'est là que ça a fait un petit peu de vues, que ça a commencé à prendre un petit peu des abonnés. Et arrivé une fois en Suisse, à l'issue du stage que j'ai fait dans le monde édito, dans le monde du journalisme en gros, je me suis dit, autant assumer l'aventure jusqu'au bout et me risquer à créer quelque chose. Et j'ai créé Juste Milieu comme ça, en me disant que ça allait être mon activité principale, en prenant un peu le risque. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être très bien entouré avec Édouard et Marie, que je salue, que j'embrasse, qui sont mes deux équipiers. On est trois à 100%. Et l'aventure Juste Milieu continue de grandir. Voilà.
Quand tu dis que tu as commencé à faire de l'actualité, c'était déjà un peu avant le Covid. Tu commentais l'actualité ou tu as commencé vraiment avec la crise?
Ça a commencé avec un tout petit peu avant le Covid, où j'ai commencé sur Let It Be, donc ma précédente chaîne, à faire des vidéos liées à l'actualité que je recoupais tout le temps avec des livres pour qu'on reste quand même dans l'idée originelle de la chaîne YouTube. Et le Covid, alors paradoxalement, c'est triste à dire, mais a été une opportunité. Ça a été un toboggan dans la mesure où beaucoup de gens avaient envie d'un discours peut-être alternatif, mais au moins pas aussi alarmiste et effrayant que ce qu'on avait dans nos médias. Et j'avais déjà cette idée de parler d'actualité avec le pas de côté de l'humour. Et c'est vrai que ça a été un déclencheur avec des vidéos qui faisaient 40, 50 000, puis 100 000 vues sur Let It Be, ce qui était fou pour moi à l'époque. J'étais monté jusqu'à 50 000 abonnés avec Let It Be. Et voilà, Juste Milieu est né de ça, de l'idée de se dire, apparemment, ça peut plaire aux gens, il y a peut-être une ligne qui peut convenir. Je vais essayer de m'y atteler et de faire vraiment ça à fond sur l'actualité.
Et est-ce que tu as été confronté à la censure pendant cette période? Parce que, par exemple, la chaîne de Radio Libre a été complètement jartée du système, mais je sais qu'il y a certains canaux qui ont réussi à échapper à cette censure. Comment c'était pour toi?
J'ai eu un cas où j'ai eu un peu les fesses qui font bravo, comme on dit. C'était à l'époque de Let It Be. En plus, c'était même pas Juste Milieu. Juste Milieu, j'ai eu rien, mais j'y reviendrai juste après. À l'époque de Let It Be, j'avais fait une vidéo sur l'inénarrable Marlène Schiappa, qui a été membre du gouvernement Macron, qui a été notamment secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, qui est réputée pour être une sorte de Simone Veil du Kama Sutra, si vous voulez, qui est une personnalité très curieuse. Et à l'époque de Let It Be, j'avais fait une vidéo où je dénonçais un livre qu'elle avait publié, écrit en son nom et non pas dans son activité politique, et un livre où elle écrivait des lettres à ses filles, enfin un truc bon, pas forcément très passionnant. Et elle avait utilisé le fichier d'adresse de l'Élysée pour faire la promotion de ce bouquin et convier des journalistes à une séance de signature, ce qui est parfaitement illégal, ce qui est un détournement des moyens de l'État et ce qui est condamnable. Et j'avais fait une vidéo intitulée « Scandale », j'avais mis le mot « scandale », le livre Marlène Schiappa. Et le soir même, je reçois un mail @gouv.fr. Donc là, on se dit, tiens, il va se passer quelque chose. J'ouvre le mail, j'ai le logo République française, tout ce qu'il faut. Et j'avais un membre de son cabinet, un certain Mathieu Pontécaille, qui m'écrivait en m'expliquant que je n'avais absolument pas le droit d'utiliser le mot scandale, de l'accoler au nom de Marlène Schiappa, qu'il se réservait le droit de me poursuivre, ce qui était un moyen de pression, alors que, évidemment, que j'en ai le droit. Tout à fait, j'en ai tout à fait le droit. D'autant plus que, comme aujourd'hui sur Juste Milieu, tout ce que je disais dans la vidéo était sourcé par des liens qui étaient rendus disponibles dans la description de la vidéo. Et n'importe qui pouvait aller voir que des médias mainstream français avaient utilisé aussi le mot scandale. Donc c'est le seul jour où j'ai eu un petit peu peur, où il y a eu vraiment, on va dire, le goût de la censure. Mais je touche du bois avec Juste Milieu, j'ai jamais eu plus d'inquiétude. J'essaie de me rassurer en me disant que c'est lié au côté bouffon. C'est lié à la blague qui permet de faire un pas de côté où je ne suis pas pris au sérieux. Et ça me va très bien.
Bon, ça doit faire grincer un peu des dents la population qui n'a pas d'humour.
Oui, bon, après, c'est pas plus mal. Ça fait le tri, on va dire. Ça fait le tri.
Alors, tout à l'heure, tu as dit que vous étiez trois. Comment est-ce que vous fonctionnez ?
Alors, on est, c'est plutôt bien réparti. Tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi. Hein. C'est un joyeux bazar avec Edouard, qui est le couteau suisse, sans mauvais jeu de mots, qui fait de la technique, qui fait du graphisme, qui a son propre projet aujourd'hui, son propre média qui s'appelle Altef 4, où lui travaille sur le e-sport, donc le monde du jeu vidéo. C'est un passionné de ça et je voulais lui laisser la chance aussi de faire ce qu'il aime, parce que bosser tous les jours pour ma tronche, ça doit être un peu pénible, donc il faut laisser respirer. Et donc, il fait énormément de choses aussi sur toutes les solutions que l'on développe en interne pour être indépendant, notamment sur la gestion des abonnements à nos deux revues mensuelles, Juste Mensuel et Le Banquet. On essaie de tout développer en interne. Et on a Marie qui est notre chef édito, c'est la scribe. Elle écrit tout, tous les articles du site. De Juste Mensuel, l'une de nos deux revues, c'est la rédactrice en chef. Elle m'aide sur Le Banquet, la deuxième. Elle écrit tout ce qui sort autour de Juste Milieu. C'est la reine du stylo. Voilà.
Tu parles de ton collègue qui travaille avec ta tronche toute la journée. Honnêtement, ça t'a fait quoi, toi, tout à coup, de devenir le visage de Juste Milieu, d'être probablement reconnu à droite et à gauche, de te voir tout le temps en vidéo ?
Bah, la vidéo, disons que j'ai pris un petit peu l'habitude avec Let It Be. C'était ma passion, je faisais ça sur mon temps libre, je parlais de ce que j'aime. Et puis, avec on va dire les statistiques qui augmentaient petit à petit, c'était assez grisant. C'était assez grisant de dire, bah voilà, ça peut peut-être marcher sans devenir Thibaut InShape ou le YouTuber à la mode. Je me dis, bah, y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Donc, ça a continué petit à petit. J'avais eu le temps d'apprivoiser un petit peu cette idée-là, ce rapport à ma tronche, hein, ce qui n'était pas gagné. C'est quand même plus facile quand t'es Brad Pitt. Mais avec Juste Milieu aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une petite forme de notoriété qui s'installe. On arrive à 400 000 abonnés. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir rencontrer des gens dans la rue bah, qui suivent la chaîne, qui regardent les vidéos. Et là encore, je touche du bois parce que dans 99% des cas, sont des gens adorables, des gens super gentils, avec qui on rigole, avec qui on sympathise. J'en ai certains qui sont devenus des copains. Et c'est une joie de se dire, bah voilà, en fait, mon métier, c'est ma passion. Je me lève pour faire ce que j'aime. Et je suis suivi par des gens qui, pour le coup, eux, ont des métiers parfois très pénibles, très durs, et qui trouvent un petit moment sympatoche à regarder notre boulot. Donc, en fait, ça me donne une énergie de fou. C'est grisant, hein, on va pas se mentir, l'ego est content. L'ego est content, ça fait plaisir d'être reconnu. Mais pour l'instant, je suis très content avec ça, je vis très bien avec ça. Ça fait plaisir, mais c'est aussi une pression de dire, bah, voilà, les gens qui me disent merci, qui sont contents, il y a peut-être un jour, ils vont me dire, bah, là, t'as fait de la merde, là, c'était pas bien. Et donc, bah, faudra aussi gérer ce jour-là. Donc, c'est grisant, mais ça maintient vigilant. Voilà. Ouais.
Et je voulais te poser la question parce que ben, t'es venu en Suisse en tant que Français. Moi, j'avais passé 10 mois à Toulouse pour un projet et j'avais trouvé que c'était moi qui me pensais extraverti là-bas. Ça dépasse tout ce qu'on connaît. Hein. C'est exceptionnel. Les gens qu'on connaît pas te font des blagues, t'abordent. On a fini en concours on monte nos fesses dans des restos avec des gens qu'on connaissait pas du tout il y a 10 minutes. Et puis là, donc t'arrives en Suisse, c'est quand même un peu plus austère. Enfin, comment tu jauges un peu cette différence? Est-ce qu'il y a quand même une différence culturelle? Parce qu'on se sent très proche quand même. On est francophone, mais on est aussi un petit peu influencé par les Suisses-Allemands. Comment tu vois les différences, de mentalité peut-être et puis d'approche de la vie.
Bah, c'est vrai que ça a été une chouette expérience. Je ne suis pas un grand voyageur dans l'âme, c'est-à-dire que je ne suis pas le Mike Horn du secteur. Le plus loin où je suis allé jusqu'à présent, c'était en Espagne. Donc, je n'ai pas l'habitude de voyager, je n'ai pas l'habitude de me confronter à d'autres mentalités, d'autres façons de vivre. Donc, la Suisse, pour moi, ça a été un peu le tour du monde en 80 jours, quoi. Donc, c'est vrai que c'était mon plus grand voyage, à me dire, voilà, j'allais vivre à l'étranger. Mais c'est vrai que je pars aussi du principe, j'adore l'idée de se confronter à d'autres cultures, tout ça, mais quand on va chez quelqu'un, bah, à Rome, fais comme chez les Romains. Quoi. À Rome, fais comme les Romains. Et donc, quand je suis arrivé en Suisse, je me suis dit, bah, ça va être chouette, il va y avoir des différences, mais bah, il va falloir s'y faire. Et en vérité, une fois passée la découverte du parfait, hein, ce qui est quand même quelque chose d'assez particulier sur le plan gustatif, une fois accepté l'idée du rosti, une fois apprécié la fondue à moult reprises, je me suis dit finalement qu'on est très bien en Suisse et qu'effectivement il y a des petites différences de mentalité, notamment de rapport à la politique, mais que j'ai trouvé assez passionnante en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette et non, je me régale, je suis heureux comme tout, ça va faire 6 ans là dans 10 jours, quelque chose comme ça. Donc non, je suis vraiment super heureux et très content, très content.
On avait parlé aussi avec Amel quand on préparait l'émission par rapport à tes thèmes de prédilection en fait. Là, tu parlais de politique. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup? Est-ce que justement l'aspect politique suisse est moins intéressant? T'es plutôt axé sur les thématiques françaises? Comment tu gères en fait ça? C'est plutôt des coups de gueule ou comment tu gères les informations que tu traites?
Bah alors, de manière générale, j'essaie voilà, de suivre l'actualité en ayant quand même l'humilité de parler des sujets que je connais le mieux, ou en tout cas le moins mal. Donc c'est plus la politique, c'est plus la géopolitique, ça va être plus l'histoire, plus modestement quand même que les autres. Mais par exemple, sur l'économie, ça n'est pas que je ne veux pas en parler, c'est juste que je me sens beaucoup moins armé pour être pertinent par rapport à ça. Donc voilà, le choix se fait en suivant un peu le flow de l'actualité et surtout en me disant, voilà, y a une matière, est-ce que je peux en parler en étant pertinent, en intéressant les gens, sans crier avec la meute? Et surtout en proposant le décalage de l'humour, en proposant le décalage d'une bonne blague, qui pour moi, c'est un peu la règle d'or. Une bonne blague explique beaucoup mieux les choses qu'une heure de développement. Donc voilà un peu les conditions qu'il faut remplir pour que je puisse parler d'une actualité. Et après, pour la Suisse, alors je suis avec grand plaisir hein, dans ma routine le matin où je me fais un peu les quotidiens français, 4-5 quotidiens français. Je me fais aussi toujours le temps pour savoir ce qui se passe en Suisse. Mais comme pour l'économie, je me sens moins armé et moins légitime à parler de l'actualité suisse. Donc je m'y intéresse, mais pour l'instant, je ne me sens pas encore légitime et armé pour faire une vidéo sur une actualité spécifique de la Suisse. Voilà, pour l'instant.
Alors, j'allais te demander, Rémi, c'est quoi ta journée type? Donc, tu commences avec la lecture des quotidiens le matin. Tu passes une très grande partie de la journée, entre guillemets, à fouiller, à chercher, à étudier?
Depuis début 2024, j'ai pris une petite habitude de me lever vers 5h, 5h30, avec les sombres histoires de cycle de sommeil. Il paraît qu'il faut faire 3h. Bon, comme diraient les fact-checkers, j'ai lu une étude, donc c'est que ça doit être vrai. Et donc, je me lève dans ces eaux-là environ. Je lis pendant une heure et demie la presse quotidienne, donc Le Figaro, Libération, Le Monde, Les Échos, Le Temps et L'Équipe, évidemment, l'actualité sportive, pour entretenir un peu les connaissances, le suivi de l'actu, remplir mes vidéos qui sont en cours, donc La Farce Tranquille, Le Juste Bistrot le soir sur Twitch, avoir un suivi, en fait, remplir tout ce qu'il faut remplir. Et puis après, la journée se déroule normalement, comme toutes les journées de boulot, avec ce qu'on doit faire impérativement, c'est-à-dire la gestion courante de nos revues, la préparation des revues, le tournage, le montage. Je monte aussi mes vidéos moi-même. Et le soir, sur Twitch, à 16h45, on fait une heure et demie d'émission, un peu en radio libre, ce qui est, ouais. Clin d'œil, hommage. ce qui m'aide aussi à parler de certains sujets que je trouve peut-être moins pertinents, qui ont peut-être moins de place ailleurs. Mais c'est une journée de boulot bien rythmée, classique, comme plein d'autres gens. Mais j'ai cette chance de faire ce que j'aime et ce qui me passionne, ce qui est quand même vachement important à l'heure actuelle. Quoi.
Et les blagues, c'est quelque chose qui est très spontané ou parfois tu dois te creuser la tête pour dire oh, « attends, il faut que ça rebondisse un petit peu là, qu'est-ce que je vais faire ?»
Et malheureusement, c'est spontané, ce qui est très emmerdant pour mon entourage. Toutes les vidéos en fait sont comme ça. Quand je tourne une vidéo, derrière ma caméra, j'ai un écran avec une liste à puces, avec les informations importantes que je vais évoquer dans ma vidéo, donc les statistiques, les dates, les infos clés pour ne rien oublier. Puis après, tout le reste, c'est un peu de l'improvisation. disant bah voilà, j'y vais dans le flux de ce qui sort et voir un peu si les vannes sont bonnes. Avec le montage, ça aide à couper si vraiment c'est pas bon. Non pas que tout le reste soit brillant, mais ça aide à un peu mieux organiser. Et ce qui n'est pas possible sur scène, malheureusement, parfois. Donc, la blague, j'essaie d'être dans l'improvisation.
Alors, une question toute simple, mais importante, c'est comment on vit d'un métier, d'un média qui est presque gratuit ? Comment vous faites ?
Alors, en fait, on a essayé de développer un business model, comme on dit à Wall Street, un modèle d'affaires, une façon de faire, articulé autour de beaucoup de contenus gratuits, effectivement, donc YouTube, qui est notre vitrine, on a notre site internet, on propose pas mal d'enquêtes, de dossiers gratuits sur nos réseaux sociaux pour que les gens découvrent un peu ce qu'on fait. Et l'idée était aussi d'assumer jusqu'au bout la promesse du média, faire un média le plus complet possible, et notamment avec ce pari de la revue papier. Par exemple, voilà, ça ressemble à... On est à la radio, donc ça ne sert à rien, mais je vous le montre pour vous. Ça ressemble à ça. On a des revues papier, donc mensuelles, le banquet juste mensuel. Et c'est ça qui nous porte financièrement. L'idée, c'est d'assumer pleinement le fait que Juste Milieu soit une entreprise, qu'on cherche à gagner de l'argent pour financer d'autres projets. Donc, pour vous faire la chronologie, début 2022, on a lancé Juste Mensuel, qui a bien marché. En octobre 2023, on a lancé le banquet, qui est une revue d'idées où tous les mois, on reçoit 5-6 intervenants différents qui vont d'Alexis Poulain à Georges Kuzmanovic, en passant par Louis Fouché, en passant par Florent Philippot, Carl Zéro, Johan Soliren. On a des universitaires, des personnalités médiatiques, politiques. Voilà, c'est vraiment une revue d'idées où tout le monde peut venir et écrire ce qu'il veut. Ça, c'était en octobre 2023, ça a bien marché. Mars 2023, c'est ça. Et octobre 2023, c'était La Boîte Noire, qui est un programme vidéo avec des contenus exclusifs qu'on ne publie pas sur nos autres réseaux, et où toutes les semaines, il y a une nouvelle vidéo essentiellement, il y a des podcasts aussi, et où on traite les sujets que je ne peux pas traiter ailleurs, ou des réflexions plus personnelles, plus fouillées, et tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment ça, et la construction de Juste Milieu s'est faite progressivement, avec ce but d'être de plus en plus solide, de financer les projets qu'on a en tête. Et en 2025, on va lancer un nouveau projet qui ne sera pas Juste Milieu, qui ne sera pas estampillé Juste Milieu, qui ne sera pas du tout sur la thématique de l'actualité. Okay. Et on va mettre des billes, on va travailler avec des gens que j'apprécie beaucoup. On est en train d'organiser tout ça, toujours dans l'idée en fait, d'être utile aux gens en proposant des conseils pertinents pour leur quotidien. Ce sera surtout sur la sphère économique cette fois, et avec toujours la visée de générer des revenus pour financer ensuite autre chose. Donc voilà un petit peu le fonctionnement.
C'est étonnant que ce soit sur la sphère économique, toi qui disais il y a un instant que ce n'est pas du tout ton rayon.
C'est pour ça qu'on travaille avec d'autres gens. Parce que si c'était moi, ce serait foutu.
Toi, tu vas faire le guignol.
Voilà. Non, je ne serai pas du tout là-dedans. Je ne serai pas du tout dans ce projet. Ce ne sera pas moi le visage. Voilà.
D'accord. Charlie, tu voulais poser encore des questions sur Juste Milieu ?
La question du développement futur, tu viens d'y répondre. Je trouve que c'est très intéressant aussi en termes entrepreneurial, parce que beaucoup de jeunes médias ou de médias alternatifs, c'est plutôt des journalistes qui étaient déçus du système de médias et puis qui essayent de lancer leur propre médias alternatifs à côté, mais qui n'ont pas justement cette conscience du business. Et puis c'est pour ça que souvent ça peine à démarrer. Donc là, je trouve que c'est un projet très intéressant. Tu pourrais même donner des cours, enseigner à des journalistes pour les aider à créer ces médias de demain, en fait, et puis aussi avec ton équipe. Donc ça, c'est très, très intéressant. Pour Juste Milieu, je pense qu'on a fait un peu le tour, parce qu'il y a aussi d'autres thèmes très importants à aborder, Amaël.
Oui, absolument. Moi, je suis impatiente de parler du spectacle, de la scène, parce que c'est un monde que je connais bien aussi. Alors, monter sur les planches, je crois avoir entendu que c'était vraiment un rêve pour toi.
Oui, depuis tout petit, mon papa m'a éduqué avec Coluche, Pierre Dac, Pierre Desproges. Et depuis tout petit, depuis que j'ai 10-15 ans environ, il m'a montré tout ça. Et puis après, ça a été forcément Les Inconnus, Les Nuls et Tutti Quanti. Voilà, j'ai tout de suite aimé ça, en fait, cette idée de faire marrer les gens, qui était un peu dans mon ADN, dans la mesure où, quand on n'est pas le beau gosse de la classe, qu'on a un peu le mec rondouillard, faut faire avec les armes qu'on a. En l'occurrence, moi, c'était plus tire sur mon doigt que t'as vu comme je suis beau. Donc, j'ai choisi mon équipe et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à bricoler là-dedans. Et donc, c'est vrai que ça a été un peu dans l'ADN. Ça a été un peu dans l'ADN de Let It Be, puis de Juste Milieu, d'aller chercher la blague, toujours comme une sorte de poutre, en fait, qui se retrouve au milieu de tout ce que je fais. de manière plus ou moins centrale, mais sur l'explication de l'actualité, je suis persuadé, comme on disait tout à l'heure, qu'une bonne blague explique mieux les choses qu'une heure de discours, pour comprendre, pour faire tomber les masques, sans mauvais jeu de mots, pour faire émerger des évidences. Et donc, j'avais toujours dans un coin de ma tête l'idée de monter sur les planches, parce que ça me faisait rêver de faire comme les vrais humoristes, ouais. comme les grands. Et je me disais qu'en plus, c'était cohérent, parce que ça n'allait pas être un produit dérivé de juste milieu où bah, voilà, je fais des blagues, mais je ne le fais pas sérieusement et je dis juste aux gens, bah, venez me voir et puis je ne ferai pas d'effort. Je m'étais juré que si je le faisais, ça allait être... en tout cas, j'allais essayer de le faire dans les règles de l'art en travaillant un vrai one-man show, en travaillant vraiment comme il faut et tout donner pour que même des gens qui ne connaissent pas juste milieu puissent passer un bon moment. Et j'ai eu la chance d'avoir sur ma route un humoriste belge qui s'appelle Stéphane Cuvelier, que j'embrasse, bien que je salue, qui a d'ailleurs en tournée lui aussi avec son nouveau spectacle qui vient toujours de démarrer, qui s'appelle Namasté ou pas, et qui m'a contacté en 2022, début 2022, et qui m'a dit, voilà, j'ai vu dans une de tes vidéos que tu disais que tu rêvais d'aller sur scène. Moi, je démarre la tournée de mon spectacle en France, donc c'était Bisouskus, son ancien spectacle. Mm-hmm. Et il m'a dit, bah, si tu veux, viens faire la première partie. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. J'avais jamais mis un pied sur une scène. Et je lui dis, bah ouais, super idée, je vais avoir le temps de me préparer, c'est quand ? Dans 3 semaines, voilà. Donc, donc ça a été un apprentissage accéléré, mais ça a été une opportunité incroyable qui m'a donné ce goût-là bah, de continuer, de me dire, bah voilà, j'ai envie de faire ça. Et donc, le spectacle Zinzin est en tournée depuis mai 2024. Sur l'année 2024, on a fait 28 dates, ça a été complet 23 fois, donc c'est un truc de dingue. J'ai la chance de rencontrer les gens qui composent la communauté Juste Milieu, de voir qui il y a de l'autre côté de l'écran. C'est à la fois un rêve qui se réalise, l'aventure Juste Milieu qui continue. Enfin, c'est tout. Voilà, je suis un homme heureux. Voilà, on peut le dire.
C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le spectacle sans évidemment tout révéler pour les gens qui vont venir te voir, mais les sujets, quelques sujets.
Alors, déjà, mon pari, pour rassurer peut-être ceux qui auraient cette crainte, mon pari, c'était de ne pas faire un spectacle avec Rémi en chemise bleue pendant une heure, qui serait une sorte de vidéo dans la vraie vie. Je voulais surtout pas que les gens se disent en sortant, bon, on aurait pu rester chez nous, c'était pareil sur YouTube. C'est pour ça que le spectacle commence avec Rémi en chemise bleue pendant 30 minutes au début, ça c'est vrai. Je parle d'actualité, je parle de politique, je parle en fait des sujets du moment, parce que je réécris le spectacle assez souvent avec tout ce qui se passe. Et par contre, après, les lumières s'éteignent et j'essaie d'être dans l'exercice du one-man show à faire des sketchs. Donc, je ne suis plus Rémi en chemise bleue et j'emmène les spectateurs dans la découverte de l'Eurovision en 2035, par exemple. J'emmène les spectateurs pour assister à une journée de formation chez les fact-checkers pour voir un peu comment ça se passe. Et puis, voilà, c'est l'idée d'aller de sketch en sketch et essayer de proposer un vrai one-man show, du vrai théâtre, voilà, et montrer aux gens que c'est un spectacle qui, j'espère, peut se déguster même sans connaître les vidéos. Et j'espère qu'on peut sortir de là en se disant « il se débrouille pas mal, le gros ».
Il semblerait que oui.
Est-ce qu'il y aura d'autres dates en Suisse ? Qu'est-ce que tu as prévu ?
Absolument. On sera à Genève le 13 décembre 2025. Voilà, c'est acté, ce sera la dernière date de l'année. Donc Genève, 13 décembre 2025. Ça, c'est pour l'autre date en Suisse. Et après, on sera dans toute la France, la Belgique aussi. Et on prépare une date au Canada. Voilà, c'est le scoop que je vous donne.
C'est génial. Donc, tu as créé réellement des personnages pour ces sketchs dont tu parlais tout à l'heure.
Absolument. Ouais, c'était vraiment mon objectif. C'était ça. C'est à la fois pour moi de me risquer aussi à cet exercice-là, de ne pas rester dans le format du stand-up, on va dire, à être juste moi-même, à aller vraiment dans le one-man show, dans le théâtre. Donc voilà, l'idée, c'est de rester autour des thématiques, parce que je me rends compte, Amel, que je n'ai pas répondu à ta question. Enfin, les thématiques dont on parle, il y a l'Eurovision, il y a la géopolitique, il y a l'information. Là, je travaille un sketch sur les cinémas français, qui va arriver dans les prochaines dates. Et donc voilà, je veux jouer des personnages en restant autour des sujets qui sont les miens, qui sont liés à l'actualité, mais de proposer voilà, d'autres Rémy, finalement, hein, dans un grand élan de schizophrénie.
Alors, Stéphane Cuvelier t'a invité sur scène. Est-ce que pour la création du spectacle, tu as eu un œil extérieur, un metteur en scène, des gens autour de toi ?
Non, sur la création du spectacle, alors, j'ai eu la chance de roder 2 sketchs, de les faire une fois dans un festival d'humour à Montpellier, l'Université d'été rigolante, c'était fin 2023. Donc, ça a été un peu un crash test pour voir. Et après, je me suis dit, voilà, je vais y aller avec les idées que j'ai pour faire un apprentissage à la dure jusqu'au bout. Stéphane m'avait donné énormément de conseils. J'avais, j'espère, un peu progressé grâce à lui déjà à ce moment-là. Et sur la suite, je me suis dit, bah voilà, je vais le faire pour le vivre à fond, quitte à me casser la gueule, mais d'y aller, voilà, d'y aller franchement avec les idées que j'ai, avec la toute petite expérience que j'avais pu prendre auprès de Stéphane. Donc ça a été un peu une transat en solitaire sur les derniers mois avant les deux dates de rodage qu'on a faites à Toulouse en mars 2024 avant le début de la tournée. Puis après, voilà, j'y vais aussi avec beaucoup d'humilité parce que ça n'est pas mon métier, comédien. J'apprends aussi, plus je joue mon spectacle, plus j'apprends. Donc l'idée, c'est de pas aussi expliquer que en fait je suis super sur scène et si c'est complet, c'est parce que je suis un génie sur scène. C'est pas vrai. C'est complet parce que la communauté juste milieu vient voir le mec des vidéos YouTube et mon défi, c'est qu'ils sortent en se disant ah ouais, il se débrouille quand même pas mal. On a passé un bon moment. C'est ça mon défi pour les gens qui connaissent comme ceux qui connaissent pas. Voilà. J'espère que pour l'instant on est pas trop mal.
Je sais que Stéphane Cuvelier, par exemple, il s'est fait vraiment ramasser, boycotter, plus programmé. Maintenant, ça a super bien repris. Mm-hmm. Toi, tu arrives un petit peu dans cette courbe qui remonte, où on peut parler d'actualité pas mainstream dans des spectacles et les gens reviennent au théâtre.
Bah, en fait, je suis dans la découverte de tout ça. Comme la tournée a commencé en mai 2024, j'ai pas encore vraiment d'effet d'expérience pour vous dire ça a évolué dans tel ou tel sens. Là où Stéphane a une carrière de plus de 20 ans, il a fait du cinéma, il a fait du théâtre, il a écrit des pièces qui ont super bien marché. Donc, il avait en fait cette expérience sur le long terme, on peut le dire, que je n'ai pas. Donc, je suis encore dans la découverte. Dans le spectacle, je ne m'interdis aucun sujet. Je dis pas ça comme un argument de vente et dire aux gens eh, c'est non censuré. Enfin, je pars aussi du principe que la liberté d'expression existe, mais c'est pas une raison non plus de dire n'importe quoi au motif de on peut le dire. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'arriver sur scène en disant je vais faire des blagues sur les juifs ou sur les homos ou sur les femmes parce que j'ai le droit de le faire. C'est-à-dire que si je le sens pas, si ça me fait pas marrer, j'ai pas envie de le faire juste pour prouver qu'on peut le faire. Ça m'intéresse pas. Mais par contre, bah, sur l'Eurovision en 2035, effectivement. Le courant woke en prend un petit peu. Il y a des vannes évidemment sur les féministes, sur les antiracistes, mais je le fais parce que ça me semble pertinent dans le spectacle que j'ai imaginé et j'ai envie de faire marrer les gens avec ça. Je le fais pas comme une sorte de figure imposée, comme en patinage, pour prouver que je suis pas censuré. Mais pour l'instant, je n'ai absolument reçu aucune pression, rien du tout. On a une tournée à 28 dates en 2024, déjà 25 pour 2025 de prévu. Donc, voilà, tout va bien pour l'instant.
C'est vraiment super. Et pourvu que ça dure. Ouais, j'aimerais beaucoup te demander qui sont les humoristes que toi, tu admires, ceux qui t'ont inspiré quand tu étais jeune aussi.
Alors, très clairement...
Coluche, t'as cité Coluche tout à l'heure.
Oui, ouais. Coluche, effectivement, dans la génération plus de mon papa, donc Coluche, Pierre Dac, des proches, Raymond Devos, qui, dans l'écriture des textes, reste pour moi une sorte de Zidane, en fait, d'un mec qu'on regarde en se disant « Bon, j'ai des chaussures, j'ai un ballon comme lui, mais je ferai jamais ça. » Donc, ça reste très, très haut. Et puis, évidemment, c'est Dieudonné. Évidemment, c'est Dieudonné. Oui. L'homme de scène, Dieudonné, j'ai mangé tous les spectacles. J'admire l'homme de scène. Ce qu'il a fait et ce qu'il est devenu à côté de la scène ne m'intéresse pas du tout. Je trouve même ça peut-être un peu désolant par moment, mais c'est autre chose. Pour moi, c'est autre chose. L'éternelle question de la séparation de l'homme et de l'artiste. Mais pour Dieudonné, sur scène, je le reconnais comme d'ailleurs le reconnaissent des grands de l'humour, on va dire. Hein. Des gens comme Alexandre Astier, comme Anne Roumanoff. Il y a des vidéos sur YouTube qui existent de gens qui disent « bah ouais, quand même, c'est le taulier, quoi ». Sur la scène humoristique française depuis 20-25 ans, c'est le taulier. Ce qui n'enlève
en
rien...
C'est quoi, sur les contenus, sur sa manière d'écrire ?
Sur l'écriture, sur l'incarnation des personnages, ce qui a commencé déjà avec le duo qu'il formait avec Elie Semoun. Leur spectacle à deux est un des meilleurs spectacles que j'ai vus. Et ils allaient à deux peut-être plus loin que ce que Dieudonné a pu faire parfois sur scène. Le duo Elie et Dieudonné, c'était indépassable. C'est un mélange de tout ça. Pour moi, l'un des meilleurs sketchs de tous les temps, c'est le sketch de Dieudonné sur le cancer, qui est sur un thème on ne peut plus compliqué que tout le monde a vécu de près ou de loin. Il en fait un sketch qui nous tire le rire autant qu'il pourrait nous tirer les larmes. Et là, on commence à toucher à de la musique classique. Quoi. C'est super. Mais j'aime Dieudonné comme j'aime plein d'autres humoristes sur la scène contemporaine. Aujourd'hui, par exemple, ça va être Gaspard Proust, Guillermo Guise. Quelqu'un comme Walter, Blanche Gardin que j'aime beaucoup aussi, il y a Franjo Naïm aussi sur la sphère un peu plus liée au Covid qui sont aussi mais excellents, d'ailleurs pas forcément que liés au Covid, ils font plein d'autres choses évidemment, donc voilà, j'aime l'humour et j'ai vraiment toute une galerie de gens que je regarde avec des grands yeux en me disant bon, je joue en 4ème division mais j'arrive. J'ai beaucoup de routes mais j'arrive.
J'ai beaucoup de routes mais j'arrive. Et j'ai envie de te demander, parce que moi c'est quelque chose qui m'a questionné, qui m'a frustré, qu'est-ce que tu en penses toi du fait que les artistes en général, que ce soit les acteurs, les chanteurs, les humoristes, il y en a vraiment la majorité qui ont fait profil bas depuis le début de ce qu'on vit en 2020. Alors qu'un artiste, il est aussi là pour justement porter ce qui se passe à la vue des gens et faire réfléchir, réagir les gens.
Bah, disons que ce que je vais dire peut ne pas convenir à des gens qui ont vécu vraiment dans leur chair ce qui s'est passé avec le Covid. Je pense à nos amis soignants suspendus notamment, qui en sont le symbole et qu'on salue évidemment. Je pense à des gens qui ont perdu des proches dans des conditions terribles liées au Covid, qui ont subi les conséquences de cette pandémie à la con. Mais j'essaie d'être dans un rapport presque intellectuel aux choses en disant que le silence des artistes, si on parle de ça, est quelque chose de parfaitement humain, dans la mesure où ils ont protégé leur gagne-pain. Alors certes, ils ont rangé leur éthique très profondément dans leur poche, pour rester poli, mais ils ont protégé leur gagne-pain, ils ont protégé leurs conditions de vie, et ils savaient très bien qu'en sortant de la meute, ils allaient se faire défoncer. Stéphane Cuvelier en est l'incarnation, mais il y en a eu d'autres. On peut parler de Francis Lalanne, par exemple. On peut parler de Jean-Marie Bigard aussi, qui a tenté à un moment donné, quelques-uns en tout cas en France, qui ont essayé de sortir du lot et qui, pour la plupart, se sont fait découper. Donc, disons que, sur le plan presque anthropologique, on va dire, je comprends la lâcheté consentie des artistes, parce que l'entre-soi, parce que la volonté de préserver sa condition. Par contre, ce qui me dérange profondément, et là où je suis un petit peu plus grognon, c'est quand ces gens-là jouent aux résistants de 1946. C'est-à-dire se réveillent après le Covid en 2023 et commencent à faire des sketchs, commencent à prendre des positions en disant « Ah ouais, quand même, le pass sanitaire, c'était pas bien. » Non, vous avez été lâche, c'est entendable, mais au moins, ayez la dignité de la fermer après coup. Au moins ça. C'est juste ça, en fait, que j'attends des gens. On voit en France, par exemple, des journalistes comme Christine Kelly ou Geoffroy Lejeune, qui font des mea culpa, alors, qui sont des journalistes tout à fait sympathiques et qui font par ailleurs un super boulot sur la dénonciation de plein d'autres sujets, des gens qui sont plutôt rangés à droite et l'extrême droite d'ailleurs, et qui sont très appréciés par plein de citoyens français. Mais ces deux journalistes, à 2-3 mois d'intervalle, ont fait un mea culpa en disant « Ah oui, mais en fait, avec le Covid, vous comprenez, on n'a pas pu dire ce qu'on voulait dire parce que sinon, c'était interdit, on risquait d'être censuré. » En fait, vous êtes en train d'assumer que vous n'avez pas fait votre boulot. Vous êtes en train d'assumer que vous avez trahi les citoyens. Donc, ayez au moins la dignité de fermer votre bouche, quoi. Et c'est ça, en fait, qui m'embête le plus, c'est que j'ai pas envie de hurler avec la meute en disant oh, « les artistes n'ont rien dit ». De toute façon, c'est pas nouveau. Un artiste de droite en France, à part Michel Sardou, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc ça n'existe pas, de toute façon. Et puis, l'histoire nous a montré, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale en France, que les élites culturelles, notamment le couple Sartre et Beauvoir, si on cherche un petit peu, ça n'a pas été les résistants qu'on nous a vendus à partir de 1946. Mmh. On a trouvé quand même beaucoup de gens de l'élite bourgeoise culturelle française qui collaboraient tranquillement et qui ont réussi, après la Libération, à réécrire un peu l'histoire. Donc, il y a, à mon avis, un fonctionnement un peu socio-démographique qui s'explique, qu'on retrouve d'ailleurs dans les bouquins de quelqu'un comme Annie Lacroix-Risse, qui a écrit des bouquins formidables sur cette question-là, que je recommande à tous nos auditeurs, et qui démontre que dès que le vent souffle, les courageux ne se retrouvent pas forcément à la radio et à la téloche. Donc je pense que ça n'était pas nouveau avec le Covid, on n'a pas découvert quelque chose, mais j'ai envie d'être un peu pertinent en disant, voilà, c'est pas nouveau, mais au moins taisez-vous.
C'est intéressant parce que ça me fait penser un petit peu tout ce que j'ai lu. Le fait que tu expliques que des gens très, très célèbres, au final, n'étaient pas ceux qu'ils ont semblé être et n'étaient pas si engagés ou si parfaits, ou au contraire, ça me ramène à la mort de Jean-Marie Le Pen, parce que je vois évidemment des témoignages dans tous les sens, avec aussi des gens qui sont dans le respect, qui disent que son combat était digne et qu'il n'a pas été compris et qu'il avait compris beaucoup de choses, etc. En marge, il y a des manifestations de gens qui dansent sur la mort de Jean-Marie Le Pen à Paris. À chaud comme ça, qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus ?
Que voilà ce qu'est devenu la vie politique française, quoi. Aussi bien dans son incarnation par des représentants politiques, je pense à Louis Boyard, qui est un député de la France Insoumise, donc plutôt rangé à l'extrême gauche, qui a tweeté hier et qui a expliqué que Jean-Marie Le Pen ne mérite pas d'hommage. Bien, sur les champs de bataille, depuis que presque l'humanité est sur cette planète, même l'ennemi a droit au respect jusque dans la mort. C'est-à-dire qu'on enterre le corps des adversaires. C'est un code d'honneur sur les champs de bataille qui a été respecté depuis des millénaires dans des civilisations autrement différentes que la nôtre. Donc bon, on arrive aujourd'hui en 2024 avec une poignée de gauchistes carencés qui se prennent pour des Jean Moulin à secouer des 8-6 et en célébrant la mort de Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Enfin, c'est lamentable, mais ça a l'importance qu'on veut bien donner, en vérité. S'il n'y a pas 14 caméras des médias français pour le relayer, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout et sont des franges en fait de gens qui n'incarnent qu'eux-mêmes. Je ne mettrai jamais tous les partis de gauche et d'extrême gauche en disant parce que certains de leurs supporters ont fait ça, toute la gauche et l'extrême gauche a oublié cette dignité qu'on doit aux adversaires, même jusque dans la mort. C'est une frange de pimpin qui a fait ça. Bon, ben voilà, le jour où Jean-Luc Mélenchon va mourir, le plus tard possible, on ne lui souhaite pas comme à personne, il y aura sûrement des pimpins à l'extrême droite qui feront pareil. Mais ça a l'importance qu'on veut bien donner. Et avec ces formidables outils que sont les smartphones, on a droit à toutes ces conneries en temps réel. Donc bon.
Comment est-ce que tu vois les années qui viennent pour toi en termes de spectacle et aussi avec Juste Milieu ? Est-ce que tu te projettes beaucoup ou tu prends plutôt les choses au jour le jour ?
J'essaie de me projeter. J'essaie d'être très sérieux dans l'approche qu'on a de l'aventure Juste Milieu, d'en faire, comme on disait tout à l'heure, une entreprise structurée avec... une vision, on va dire, si j'ose dire. Il ne faut pas s'emballer non plus, ce n'est pas Wall Street, mais je veux absolument défendre ça par respect pour les gens qui nous suivent. Parce qu'on a aujourd'hui des gens de plus en plus nombreux qui sont réguliers, qui nous suivent, qui prennent du plaisir, j'espère, à regarder ce qu'on fait ou à lire ce qu'on fait. Je leur dois le respect, donc un travail sérieux, appliqué. Et puis, ce qui est bien aussi dans cette aventure, c'est que comme on a choisi le modèle de l'indépendance, qu'on est financé à 100%, en fait, exclusivement par les gens qui nous soutiennent, par notre communauté, le jour où on ne prendra pas la bonne direction, ça va se voir tout de suite. C'est-à-dire que les gens vont arrêter de nous soutenir, vont arrêter de nous financer. Donc, on a une seule dépendance, c'est celle de notre communauté. Là où, dans d'autres modèles de fonctionnement, et qui sont très bien, vous avez des levées de fonds, vous avez des business angels, vous avez des choses comme ça, qui vont vous donner du pognon, alors que les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous et que les visées des uns et des autres ne sont pas forcément accordées. Nous, le jour où on prend la mauvaise voie, c'est réglé, en fait. c'est ce qui me pousse aussi à être rigoureux, à être appliqué, faire en sorte de maintenir ce qui fait que les gens sont là aujourd'hui.
Est-ce que c'est plutôt rassurant le fait que les gens soient de plus en plus nombreux à suivre un média comme le tien, comme d'autres personnes qui relatent l'actualité ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui décrochent gentiment de TF1, de BFM TV, des médias mainstream ?
Absolument, absolument. Mais chez Juste Milieu, comme plein d'autres médias alternatifs qu'on salue, hein, c'est Le Monde Moderne, c'est Putsch, c'est Tocsin. En France, on en a une ribambelle, donc ça, c'est vraiment chouette. Maintenant, là encore, en essayant d'observer ça avec, j'espère, un peu de lucidité et d'honnêteté intellectuelle, c'est quand même le signe de quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas journaliste. C'est un métier que je respecte. Il y a une carte de presse, il y a une déontologie. Je n'ai pas du tout de formation de journalisme. Il y a où il y avait une déontologie. Effectivement, je corrige. je respecte ce métier-là qui a été dévoyé, mais qui ne fait pas du journalisme en tant que tel une mauvaise chose. Mais pour autant, moi, je suis un citoyen qui donne son avis sur YouTube. Donc, dans une société normale, Juste Milieu n'existe pas. C'est-à-dire que les gens se disent « Pourquoi j'irai regarder l'autre avec chez Smith Bleu ?» Parce que quand je mets CNews ou BFM ou LCI ou France Info, il y a le même traitement de l'actualité, des passionnés qui acceptent la subjectivité, qui acceptent d'entendre les uns et les autres. Donc le jour où les médias font leur boulot, on disparaît. Mais je pense que c'est souhaitable. Je pense que c'est souhaitable, ça voudra dire qu'on aura peut-être contribué à revenir, à remettre les choses dans l'ordre. Mais bon, pour l'instant, on avance et puis on profite. Je ne vais pas vous mentir, c'est profitable ce qui se passe.
C'est clair. J'imagine bien que tu n'es pas devin, mais est-ce que tu arrives, toi, à te dire peut-être que dans 10 ans, les médias, c'est ceux qui sont en train de se développer maintenant et sur Twitter et sur YouTube et sur d'autres plateformes ?
Absolument.
Et plus les grands médias mainstream ?
Ah, absolument, mais tout à fait. On le voit, ce qui est en train de se dessiner petit à petit aux États-Unis, pour la première fois avec cette réélection de Donald Trump, on a eu une campagne de dingue, hein, avec trois tentatives d'attentat contre un ancien président, deux qui ont eu lieu, une qui a été avortée juste avant. On a eu une Kamala Harris qui sort du bois, on ne sait pas qui c'est, pour remplacer quelqu'un qui n'était pas sénile et finalement qui était sénile, à savoir Joe Biden. Enfin, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. On a eu une campagne de fou, mais on a surtout eu un Donald Trump qui, encore plus que lors de la précédente campagne, a accepté la suprématie en devenir des médias alternatifs. c'est Joe Rogan, c'est des gens comme ça. Il a fait des podcasts, il a fait des choses qui étaient du jamais vu, même aux États-Unis. Donc, je pense que évidemment que l'échiquier est en train d'être secoué entre médias mainstream et médias alternatifs. Pour autant, je trouve que ça va être intéressant parce que on va voir des phénomènes qu'on n'imagine pas aujourd'hui, mais qui vont être des phénomènes assez basiques de destruction, de médias alternatifs en fait qui peuvent passer sous la main des médias mainstream. C'est-à-dire que j'entends par là le fait que les médias mainstream sont des entreprises capitalistes, donc pour parler en bon marxiste, elles ont besoin des petites entreprises en devenir pour grossir et donc éteindre la potentielle concurrence. Et aujourd'hui, la question que je pose aux auditeurs français, a-t-on l'assurance que tous nos médias alternatifs ne vont pas céder aux sirènes du pognon le jour où CNews va leur agiter un chèque ? Et je pense que ce qui se passe est très bien que les médias alternatifs prennent de plus en plus de place, que les citoyens se disent bah, on peut faire de l'information autrement, sans forcément être journaliste et que ça n'est pas une tare et qu'on peut faire les choses sérieusement. Mais pour autant, on va voir un phénomène qu'on n'anticipe pas trop à mon avis et qui risque de faire peur à des gens quand on va voir comment ça va se passer dans les fêtes. Et je ne suis pas certain que tout le monde garde une éthique digne de ce nom et refuse la main tendue des médias mainstream qui vont voir là une opportunité de conserver leur audience, quoi.
Alors, bah, pour les gens qui feraient ta connaissance aujourd'hui, donc le site, c'est juste-milieu.ch. Et en conclusion, est-ce que tu veux laisser un petit message pour les auditrices, auditeurs de Radio Libre aujourd'hui ?
Ah oui, et puis surtout sur ta vision du monde futur, parce que tu parlais de 2035, de l'Eurovision. Quelle est ta vision du futur idéal ?
Alors, bah, sur déjà cette question-là, je suis très optimiste parce que les choses bougent, on le voit, avec des événements qui sont évidemment terribles. C'est la guerre israélo-palestinienne, enfin la continuité de la guerre israélo-palestinienne, le conflit en Ukraine. On a des événements géopolitiques majeurs qui secouent nos sociétés, qui ont des conséquences terribles pour les populations civiles, femmes, hommes, enfants. Et je rappelle que, quel que soit le drapeau des gens, hein, les femmes et les enfants notamment ne sont pas censés crever hein, sur des champs de bataille, donc que ce soit des Palestiniens, des Ukrainiens ou je ne sais quel pays. Donc on voit en fait un monde qui se dessine, qui était un monde contre lequel on nous avait pourtant éduqués. Hein, à l'école, on nous avait expliqué les dangers de la propagande, on nous avait expliqué que dans un contexte de guerre, vous avez deux camps qui s'opposent et qui vont essayer d'imposer leur narratif. Bon, ben aujourd'hui, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Qu'on parle Russie-Ukraine, Israël-Palestine ou bien d'autres conflits, on a des narratifs qui essaient de s'imposer, on a une propagande qui n'a jamais été aussi omniprésente, mais qui donc n'a jamais été aussi visible et contre laquelle on peut se méfier. Et c'est ce que je trouve chouette, c'est qu'il y a aujourd'hui une sorte de vigilance qui se dessine chez les citoyens et qui secoue un peu le système. Alors, la façon de concrétiser tout ça va s'appeler Donald Trump, va s'appeler Mélanie. Il y aura des matérialisations politiques qui sont différentes, bonnes ou mauvaises, ça dépend des idées politiques de chacun. Mais je pense que les lignes bougent beaucoup plus que ce que j'avais, que ce que je pouvais penser il y a encore deux, trois ans à la sortie du Covid. Et il y a un réveil citoyen qui est certain et qui doit à la fois nous pousser au positif, nous pousser à l'engagement citoyen. Voilà ce qu'on peut faire pour se réunir, pour discuter ensemble, l'importance du débat, de la contradiction. On l'a vu avec le Covid, hein, le but des politiques sanitaires, notamment en Occident, c'était de séparer les gens. Surtout, restez chez vous, ne vous parlez pas, l'atomisation de l'individu, pour que les gens ne se retrouvent pas au bar en disant « Mais attends, c'est quoi cette histoire-là de faut faire vacciner, puis pas vacciner, puis le masque, pas le masque, on nous prend pour des buses. » Et donc, il ne fallait surtout pas que les gens parlent entre eux. Donc je trouve que plus que jamais, c'est nécessaire d'accepter nos désaccords, de papoter entre nous, de construire un élan collectif comme ça, tout en restant prudent, parce qu'on reste dans un monde qui est quand même un monde de vilains, et en étant prudent sur le fait que même quand une solution semble avoir le visage de la solution, elle peut avoir un petit coin de visage qui est le coin du problème. Enfin, rien n'est jamais qu'une solution, rien n'est jamais qu'un problème. Je pense par exemple à Donald Trump, qu'on a l'illustration. Ça fait du bien de se dire que ça dégage les woke et Biden, si je caricature, mais Donald Trump, c'est pas non plus l'ange Gabriel, quoi. Donc il faut être prudent sur tout ça. Et donc voilà, c'est le petit mot à la limite pour finir que je peux adresser à nos auditeurs. Merci déjà d'être là, merci de m'avoir écouté. Et puis surtout, bah, voilà, quelles que soient vos conditions, vos idées, tout ça, restons unis, gardons la banane et restons vigilants, plus que jamais.
Merci beaucoup Rémi d'avoir papoté et partagé avec nous aujourd'hui.
Avec plaisir.
Et merci aussi à Pascal qui était à la régie, hein, que j'ai oublié de présenter en début d'émission, qui a garanti que le stream fonctionne parfaitement. Donc voilà. Donc on se retrouvera peut-être en 2035 pour voir que sera devenu Rémi. On se réjouit. Merci d'avoir été là. Avant, mais bien sûr, on se reverra avant. Bien sûr. Certainement lors d'un spectacle. Et puis merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Abonnez-vous à notre newsletter sur radiolibre.ch. Comme ça, vous serez au courant de tous les podcasts. Et puis on va se retrouver très bientôt pour la suite. Merci, bonne suite à vous et bonne année 2025.
Bonne soirée, au revoir.